Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. La Russie a ouvert un terrain spécial à l'Indonésie dans un premier centre commercial musulman à Moscou. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a tenu une activité culturelle, la chaîne indonésienne. Le président Joko Widodo invite 24 professeurs indonésiens aux États-Unis à développer la Papouasie. BNPT et la Commission nationale des droits de l'homme ont signé un protocole d'accord sur la prévention du terrorisme. L'Indonésie veut renforcer la coopération au sein du ministère de la Communication et de l'Informatique. L'ambassade de la République d'Indonésie demande à Diaspora de faire la promotion de l'Indonésie à l'Espagne. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Russie a offert à l'Indonésie une zone spéciale pour les restaurants et les produits de l'Indonésie au premier centre commercial musulman à Moscou. Le centre commercial est situé dans la métropole autour de la colonie des musulmans à Moscou. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Indonésie en Russie, Wahid Supriyadi, en marge de l'activité Indonesia Update le 17 août 2016.
Bahkan kita ini ditawarkan ada satu mall muslim pertama di Rusia.
En fait, nous sommes offerts des terrains à 300 mètres carrés et 180 mètres carrés au premier centre commercial musulman en Russie pour nos produits. Et nous avons été approchés d'abord et donné une réduction parce que nous étions considérés comme le plus grand pays musulman dans le monde. L'ambassadeur Wahid a ajouté que la Russie était un pays avec la plus grande population musulmane en Europe. Environ 20 millions de musulmans vivent en Russie et sont répartis dans toute la Russie, y compris la capitale de Moscou. Dans le cadre du 71e anniversaire de la République d'Indonésie, le ministère des Affaires étrangères a organisé une activité culturelle. La chaîne indonésienne a été tenue le jeudi 18 août à Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Le directeur de l'information et des médias, Siti Sofia, a déclaré dans une conférence de presse à Jakarta, 18 août 2016, que les spectateurs étaient 60 jeunes provenant de 41 pays. Ils sont les participants du programme de bourse d'études des arts d'Indonésie, ou BSBI.
Ini performance akan terdiri dari 60 pemuda dari 41 negara. Seperti yang diketahui oleh teman-teman, beasiswa seni budaya ini sudah
dimulai. Cette performance est composée de 60 jeunes de 41 pays. La bourse d'études de l'Indonésie des arts et de la culture ou BSBI a été commencée depuis en mai dernier. Les participants ont mené la formation des arts et de la culture dans diverses galeries. Ce spectacle intitulé « Mille îles fait des paradis ». Ce programme a été mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères depuis 2003 dans le but de promouvoir la culture de l'Indonésie, en plus de continuer à élargir des relations entre les gens aux gens, notamment les relations d'amitié entre les jeunes indonésiens avec les jeunes à l'étranger. Selon Siti Sofia, les jeunesses étaient en Indonésie pour l'apprentissage des langues, l'art et la culture de l'Indonésie à Studio Samarandana, Bali, Studio Tidif, Surabaya, la Maison culturelle Rumata, Makassar, Studio Sofani, Padang, et l'Université de développement ou UPN Veteran, Yogyakarta. Les participants de BSBI proviennent de l'Azerbaïdjan, le Brunei Darussalam, le Cambodge, le Canada, la Chine, la République tchèque, la France, Vanuatu, l'Allemagne et le Japon. Le président Joko Widodo a déclaré au Palais d'État Jakarta jeudi qu'il invitait 24 professeurs indonésiens qui travaillaient aux États-Unis afin de travailler en Indonésie. Ils aideront le gouvernement indonésien de développer la Papouasie. Selon le président, il y a beaucoup des Indonésiens qui ont des prestations, mais ils ont choisi de travailler à l'étranger. À l'avenir, il y aura beaucoup des Indonésiens qui seront demandés à travailler en Indonésie pour aider le gouvernement. Leurs contributions sont nécessaires pour aider le gouvernement face à la concurrence mondiale. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, et la Commission nationale des droits de l'homme ont signé un protocole d'accord sur la prévention du terrorisme dans le cadre des droits de l'homme. Le protocole d'accord a été signé par le chef de police de BNPT, le commissaire général Suhardi Alius, et le chef de la Commission nationale des droits de l'homme, Imdadun Rahmat à Sentul, Bogor, jeudi. Suhardi Alius a déclaré que ce protocole d'accord était une étape de BNPT pour accomplir sa tâche et ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre des droits de l'homme. Il n'y a pas eu une bonne relation et un accord comme a été fait dans le protocole d'accord. Avec l'existence du protocole d'accord, BNPT et la Commission peuvent coexister et s'il y a une pénurie ou l'excédent, cela discutera vraiment pour le bien commun. La délégation indonésienne rend visite à Moscou en Russie pendant 5 jours comme partie de la deuxième ligne de la diplomatie pour accroître et resserrer la coopération dans les domaines de la communication, l'informatique et des médias. Le directeur des services d'information informatique du ministère des Communications et de l'Information, Salamata Sembiring, a affirmé à Moscou en Russie mercredi 17 août 2016 que cette visite était une visite réciproque menée par la délégation indonésienne au cours de la visite du vice-ministre des Communications et des Médias de masse de la Russie, Volin Aka, à Jakarta l'année dernière. Salamata a également affirmé que lors de la visite, la délégation indonésienne dirigée par l'expert du service des médias et socioculturels du ministère de la Communication et de l'Information, Dr. Henry Subiakto, a rencontré Volin Aka, l'ambassadeur indonésien pour la Russie, M. Wahid Supriyadi, et certains dirigeants des médias de masse. À cette réunion, les deux parties ont exprimé les derniers développements dans leurs pays respectifs dans les domaines politiques, économiques, socioculturels et médiatiques. L'ambassade de République d'Indonésie à Madrid a l'intention d'établir la diaspora indonésienne dans différentes villes à l'Espagne afin de devenir des partenaires de l'ambassade et faire la promotion de l'Indonésie à l'Espagne. Cela a été déclaré par l'ambassadeur indonésien à l'Espagne, Yuli Mumpuni Widarso, dans son discours de la 71e commémoration de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie tenue à l'ambassade d'Indonésie à Madrid. Selon l'ambassade d'Indonésie à Madrid, citée par Antara de Londres vendredi, cette activité a été participée par environ 400 participants indonésiens qui sont venus de Madrid et d'autres villes comme Valencia, Alicante, Bilbao, Murcia, Ciudad Real et Granada. L'ambassadeur Yuli Mumpuni Widarso invite tous les Indonésiens habitant à l'Espagne à contribuer dans le renforcement des relations entre l'Indonésie et l'Espagne sur la promotion du tourisme et du produit indonésien vers les gens d'Espagne. Concernant cette question, l'ambassadeur demande aux diasporas indonésiennes de participer à la promotion de destinations touristiques indonésiennes au public d'Espagne. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sergeant Longten, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'attaque russe en Syrie ». L'attaque russe contre les rebelles en Syrie mercredi n'était pas seulement une forme de soutien pour le régime du gouvernement Bachar al-Assad, mais aussi étonnement pour l'Occident. Les attaques ont été menées en utilisant des bombardiers Tu-22M3 Backfire et Su-34 Fullback qui ont décollé de la base aérienne Hamadan en Iran. Pour l'Occident, la mesure prise par Moscou était choquante et en question. Même si Moscou soutient le gouvernement en Syrie en utilisant la base aérienne iranienne par Moscou, entraînerait une grave question. Pourquoi? Jusqu'à présent, Téhéran était l'ennemi politique de Washington et d'Israël. L'utilisation de la base iranienne par la Russie à lancer des attaques aériennes en Syrie est certainement surprenant les États-Unis et ses alliés dans la région. L'attaque russe contre le côté rebelle a déclenché de graves préoccupations de Moscou et de Téhéran dans le cadre d'attaques menées par les rebelles dans la ville d'Alep récemment. Un fonctionnaire des États-Unis a affirmé que le gouvernement syrien essaie maintenant de gagner la bataille pour maintenir Alep et ses environs. Ensuite, la question se pose ce qui est de l'impact de l'attaque russe contre les rebelles à Alep. En effet, la constellation est assez claire. Les États-Unis et ses alliés soutiennent les rebelles et veulent le transfert du pouvoir en Syrie, alors que la Russie et l'Iran soutiennent le régime d'administration Bachar al-Assad. Au moins, avec une action surprenante de la Russie en utilisant la base aérienne iranienne, Moscou et Téhéran ont voulu envoyer un signal aux États-Unis et l'Occident que leurs deux puissances militaires doivent être comptées par les partisans du côté rebelle. De la constellation géopolitique marquée par une démonstration de force, on peut supposer que le conflit politique en Syrie est susceptible de se poursuivre pendant une longue période, parce que les deux parties se sentent avoir un appui solide. Cette prévision se réalisera si les États-Unis et Moscou parviennent à tenir des pourparlers, au moins en réduisant la tension politique entre les deux parties. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici notre programme quotidien, l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie, de l'édition 19 août 2016. On va commencer le 19 août 1945, la fondation du ministère indonésien des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a été créé le 19 août 1945 après la proclamation de l'indépendance de la République de l'Indonésie. Le ministère des Affaires étrangères est l'un des trois ministères avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense explicitement mentionnés dans la Constitution de 1945. Le ministère des Affaires étrangères ne peut pas être modifié ou dissuté par le président. Le ministère des Affaires étrangères, conjointement avec le ministre de l'Intérieur et le secrétaire à la Défense, désire présidence par intérim si le président et le vice-président décident démissionner, rejeter ou incapable d'exercer ses fonctions à l'avenir en même temps. Dans les années 1945 à 1950, le ministère des Affaires étrangères est une période décisive dans la lutte pour l'indépendance dans l'exécution de ce qui est une partie de l'histoire qui détermine le caractère ou la nature de la politique étrangère indonésienne. Le ministère des Affaires étrangères, le premier tenu par M. Ahmad Subardjo, bien actuellement détenu maintenant avec Retno LP Marsudi. On chante le 19 août 2003, Sergio Vieira de Mello, représentant spécial de l'ONU en Irak, a été tué. Sergio Vieira de Mello était un diplomate brésilien des Nations Unies qui a travaillé à l'ONU depuis plus de 34 ans. De Mello a été tué dans l'hôtel Canal à bombarder Bagdad en Irak ainsi que d'autres membres de personnel le 19 août 2003. Il a commencé sa carrière comme officier dans le haut commissaire des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour les réfugiés ou UNHCR, à Genève en 1969. Il a travaillé avec les réfugiés au Bangladesh au cours de l'indépendance en 1971 et à Chypre après l'invasion turque en 1974. En mai 2003, Vieira de Mello a été nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Irak. En avril 2004, Sergio Vieira de Mello a reçu le statement par l'Institut Est-Ouest. Entre le 19 août 1991, au coup d'état de manque contre Gorbatchev. Alors que le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est en vacances en Crimée, l'état d'urgence est proclamé et un comité d'État prend tous les pouvoirs. Le président de la République de Russie, Boris Yeltsin, saute à l'os du Parlement russe et demande à la foule de s'opposer au coup d'État en empêchant l'arrivée des chars. En décembre, Mikhail Gorbatchev démissionnera. Ce sera la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques ou l'URSS. Ses auditeurs, c'était le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie, l'édition le 19 août. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Saint-Jean Blonten, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point. Et pour le titre, le gouvernement indonésien réduit toujours le chiffre du chômage. Le gouvernement continue de réduire le chômage. Le ministre de la Main-d'œuvre, M. Hanif Dahiri, à Jakarta le mercredi 17 août, a dit que le gouvernement est optimiste de réduire le taux de chômage en effectuant une variété de stratégies et de programmes de travail. De plus, cela est encouragé avec la hausse de la croissance économique, si bien qu'il est en mesure d'élargir les possibilités d'emploi et d'améliorer l'absorption des main-d'œuvre. Auparavant, la diminution du chômage est exprimée par le président Joko Widodo dans son discours officiel au bâtiment de DPR-MPR mardi le 16 août. Selon le président, le taux de chômage a été réduit à 5,5%. Le président Joko Widodo a invité tous les éléments de la nation à travailler ensemble pour lutter contre la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. Sur la base des données du Bureau central de statistiques, BPS, en février 2016, le taux de chômage a diminué à 7,02 millions de personnes, soit 5,5% par rapport aux données de BPS en février 2015, qui atteint 7,45 millions de personnes, soit environ 5,81%. Hanif Dahiri expliquait « La réduction du chômage continue d'être un défi de toutes les parties. Le gouvernement doit rendre le climat plus propice du monde d'affaires. Ainsi, le climat d'investissement à la fois à l'intérieur et à l'étranger améliore de sorte qu'il peut alors absorber plus de travailleurs. Selon Hanif Dahiri, il encourage l'investissement à plus s'orienter vers l'investissement de main d'œuvre. Ainsi, l'absorption de l'emploi est meilleure. Le ministère du Travail continue également d'optimiser les programmes de lutte contre le chômage et l'expansion des possibilités d'emploi, comme les activités de travail, le travailleur indépendant, l'application de la technologie appropriée et les travailleurs volontaires. En outre, il y a le salon de l'emploi et le marché du travail en ligne, ainsi que des services liés au placement et à la protection des travailleurs à l'étranger. En outre, le ministère du Travail s'efforce l'augmentation de la compétence de la main-d'œuvre à la fois par la formation professionnelle au centre de formation ou par les programmes d'apprentissage à l'intérieur et à l'étranger. Pendant ce temps, le ministère de la Planification du Développement National, Bambang Brojonegoro, comme publié Republika, jeudi le 18 août, a déclaré qu'en 2017, le gouvernement prévoit la diminution du taux de chômage à 5,3%, alors que le taux de pauvreté a chuté à 9,5% jusqu'à 10,6%. Mais cet intérêt n'est pas facile parce que l'économie nationale est encore lente et a l'impact sur l'absorption de la main-d'œuvre, a déclaré le ministre Bambang Brojonegoro. Chers auditeurs, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La Russie a offert à l'Indonésie une zone spéciale pour les restaurants et les produits de l'Indonésie au premier centre commercial musulman à Moscou. Le centre commercial est situé dans la métropole autour de la colonie des musulmans à Moscou. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Indonésie en Russie, Wahid Supriyadi, en marge de l'activité Indonesia Update le 17 août 2016.
Bahkan kita ini ditawarkan ada satu mall muslim pertama di Rusia.
En fait, nous sommes offert des terrains à 300 mètres carrés et 180 mètres carrés au premier centre commercial musulman en Russie pour nos produits. Et nous avons été approchés d'abord et donné une réduction parce que nous étions considérés comme le plus grand pays musulman dans le monde. L'ambassadeur Wahid a ajouté que la Russie était un pays avec la plus grande population musulmane en Europe. Environ 20 millions de musulmans vivent en Russie et sont répartis dans toute la Russie, y compris la capitale de Moscou. Dans le cadre du 71e anniversaire de la République d'Indonésie, le ministère des Affaires étrangères a organisé une activité culturelle. La chaîne indonésienne a été tenue le jeudi 18 août à Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Le directeur de l'information et des médias, Siti Sofia, a déclaré dans une conférence de presse à Jakarta 18 août 2016 que les spectateurs étaient 60 jeunes provenant de 41 pays. Ils sont les participants du programme de bourse d'études des arts d'Indonésie, ou BSBI.
Ini performance akan terdiri dari 60 pemuda dari 41 negara. Seperti yang diketahui oleh teman-teman, beasiswa seni budaya ini sudah
dimulai. Cette performance est composée de 60 jeunes de 41 pays. La bourse d'études de l'Indonésie des arts et de la culture, ou BSBI, a été commencée depuis en mai dernier. Les participants ont mené la formation des arts et de la culture dans diverses galeries. Ce spectacle intitulé « Mille îles fait des paradis ». Ce programme a été mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères depuis 2003 dans le but de promouvoir la culture de l'Indonésie, en plus de continuer à élargir des relations entre les gens aux gens, notamment les relations d'amitié entre les jeunes indonésiens avec les jeunes à l'étranger. Selon Siti Sofia, les jeunesses étaient en Indonésie pour l'apprentissage des langues, l'art et la culture de l'Indonésie à Studio Samarandana, Bali, Studio Tidif, Surabaya, la Maison culturelle Rumata Makassar, Studio Sofani Padang, et l'Université de développement ou UPN Veteran Yogyakarta. Les participants de BSBI proviennent de l'Azerbaïdjan, le Brunei Darussalam, le Cambodge, le Canada, la Chine, la République tchèque, la France, Vanuatu, l'Allemagne et le Japon. Le président Joko Widodo a déclaré au Palais d'État Jakarta jeudi qu'il invitait 24 professeurs indonésiens qui travaillaient aux États-Unis afin de travailler en Indonésie. Ils aideront le gouvernement indonésien de développer la Papouasie. Selon le président, il y a beaucoup des Indonésiens qui ont des prestations, mais ils ont choisi de travailler à l'étranger. À l'avenir, il y aura beaucoup des Indonésiens qui seront demandés à travailler en Indonésie pour aider le gouvernement. Leurs contributions sont nécessaires pour aider le gouvernement face à la concurrence mondiale. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, et la Commission nationale des droits de l'homme ont signé un protocole d'accord sur la prévention du terrorisme dans le cadre des droits de l'homme. Le protocole d'accord a été signé par le chef de police de BNPT, le commissaire général Suhardi Alius, et le chef de la Commission nationale des droits de l'homme, Imdadun Rahmat à Sentul, Bogor, jeudi. Suhardi Alius a déclaré que ce protocole d'accord était une étape de BNPT pour accomplir sa tâche et ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre des droits de l'homme. Il n'y a pas eu une bonne relation et un accord comme a été fait dans le protocole d'accord. Avec l'existence du protocole d'accord, BNPT et la Commission peuvent coexister et s'il y a une pénurie ou l'excédent, cela discutera vraiment pour le bien commun. La délégation indonésienne rend visite à Moscou en Russie pendant 5 jours comme partie de la deuxième ligne de la diplomatie pour accroître et resserrer la coopération dans les domaines de la communication, l'informatique et des médias. Le directeur des services d'information informatique du ministère des Communications et de l'Information, Salamata Sembiring, a affirmé à Moscou en Russie mercredi 17 août 2016 que cette visite était une visite réciproque menée par la délégation indonésienne au cours de la visite du vice-ministre des Communications et des médias de masse de la Russie, Volin Aka, à Jakarta l'année dernière. Salamata a également affirmé que lors de la visite, la délégation indonésienne dirigée par l'expert du service des médias et socioculturels du ministère de la Communication et de l'Information, Dr. Henry Subiakto, a rencontré Volin Aka, l'ambassadeur indonésien pour la Russie, M. Wahid Supriyadi, et certains dirigeants des médias de masse. À cette réunion, les deux parties ont exprimé les derniers développements dans leurs pays respectifs dans les domaines politiques, économiques, socioculturels et médiatiques. L'ambassade de République d'Indonésie à Madrid a l'intention d'établir la diaspora indonésienne dans différentes villes à l'Espagne afin de devenir des partenaires de l'ambassade et faire la promotion de l'Indonésie à l'Espagne. Cela a été déclaré par l'ambassadeur indonésien à l'Espagne, Yuli Mumpuni Widarso, dans son discours de la 71e commémoration de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie tenu à l'ambassade d'Indonésie à Madrid. Selon l'ambassade d'Indonésie à Madrid, citée par Antara de Londres vendredi, cette activité a été participée par environ 400 participants indonésiens qui sont venus de Madrid et d'autres villes comme Valencia, Alicante, Bilbao, Murcia, Ciudad Real et Granada. L'ambassadeur Yuli Mumpuni Widarso invite tous les Indonésiens habitant à l'Espagne à contribuer dans le renforcement des relations entre l'Indonésie et l'Espagne sur la promotion du tourisme et de produits indonésiens vers les gens d'Espagne. Concernant cette question, l'ambassadeur demande aux diasporas indonésiennes de participer à la promotion de destinations touristiques indonésiennes au public d'Espagne. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La cascade de Chuncha Kuang. La région de Manggarai Est, Nusa Tenggara Est, est très riche en potentiel touristique de la nature, la culture, la maison traditionnelle, le lac naturel, l'environnement, la montagne et la plage. Tout le potentiel existe dans divers districts de cette région, entre autres dans le quartier Borong, la capitale de la région de Manggarai Est. À Borong, il y a beaucoup de belles attractions et intéressantes, telles que la plage de Cepiwatu, la grotte de Liang Bala, la source Sot Rana Masak et la cascade de Chuncha Kuang. Et cette fois, je vais présenter l'un des sites touristiques célébrés à Borong, c'est la cascade de Chuncha Kuang, la beauté cachée. La cascade de Chuncha Kuang est située au village de Mondo, la région de Manggarai Est. Son emplacement est caché dans une vallée de la région de Manggarai Est. Du centre-ville de Borong, vous pouvez voyager par voie terrestre vers le village de Mondo via l'autoroute Trans-Flores pendant environ 15 minutes. Et ensuite, le voyage est continué à travers la forêt de Kuang et passé par le fleuve de Waisa. La cascade de Chuncha Kuang provient de Ruizo. Waisa, il faut 15 minutes pour y arriver à partir du village de Mondo. L'écoulement de la cascade sépare les deux vallées. La hauteur de la cascade est d'environ 15 mètres. Cette cascade a un bassin d'eau claire en dessous. Ainsi, vous pouvez nager et profiter de la fraîcheur de l'eau. Vous pouvez également sauter de vallées de cascade afin de sentir l'autre sensation de fraîcheur de cette cascade. Ces dernières années, la chute d'eau ou la cascade est visitée par les touristes étrangers, comme par exemple les touristes en provenance du Royaume-Uni et de l'Australie. Les touristes aiment la sensation de sauter de la vallée. La zone touristique n'est pas encore équipée de restaurants, ainsi vous devez apporter votre propre nourriture et boisson. Si vous voulez voyager, il doit avoir un guide local du village de Mondo. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La cascade de Chuncha Kuang. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur ayant pour titre le programme du petit médecin compétent de la nutrition de la version numérique. Chers auditeurs, l'éducation sur la nutrition n'est pas seulement nécessitée par les adultes, mais aussi importante d'être enseignée et comprise par les enfants à un âge précoce. Par conséquent, l'Association indonésienne des médecins en nutrition médicale, PDGMI, fournit des connaissances sur la nutrition à travers le programme de petits médecins compétents de nutrition, DKMG, aux élèves des écoles primaires. Chers auditeurs, le programme de petits médecins compétents de nutrition est un programme créatif d'une entreprise laitière Indonésie lancée en 2008. En 2010, ce programme s'est développé. À cette année, l'Association indonésienne des médecins de nutrition médicale, PDGMI, coopère avec le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture. Cela est démontré par le don de l'éducation sur la nutrition, la santé et l'hygiène personnelle pour les élèves des écoles primaires, les enseignants et leurs parents. Selon le vice-président de la direction centrale de PDGMI, la spécialiste de nutrition du clinique Justina, Annie Indrastuti, à travers ce programme, les élèves des écoles primaires devraient mieux comprendre l'importance de la nutrition et propager l'éducation nutritive aux personnes environnantes. Depuis qu'il a été introduit pour la première fois, DKMG a atteint 5160 petits médecins compétents de la nutrition d'environ 2105 écoles primaires dans 38 villes à Sumatra jusqu'à la Papouasie. Chers auditeurs, en 2016, le programme de DKMG est différent avec le programme auparavant. Cette année, le programme est présent dans le domaine numérique à travers le site de www.fortigro.denco.co.id qui a lancé officiellement le 3 août 2016. Ce programme vise à fournir des facilités pour les étudiants et les enseignants qui sont principalement dans la région qui a entravé le facteur géographique. Par ailleurs, afin que ce programme puisse atteindre beaucoup d'étudiants, les enseignants et les parents à toute l'Indonésie. Ce programme est destiné aux élèves des écoles primaires de grade 4 ou 5 et chaque DKMG doit former une équipe de 4 personnes. L'enseignement fournit entre autres des signes comment des enfants bien nourris, les connaissances sur la nutrition, les sources d'énergie, des substances de régulation et des substances adjuvantes, la planification des repas nutritifs, la mesure de l'état nutritionnel et les pratiques de conseil nutritionnel aux façons sur le choix des collations saines et sécurisées. Le programme de DKMG pourrait générer des agents de changement qui peuvent fournir un impact positif lié à la nutrition, la santé et l'hygiène personnelle afin de réaliser l'avenir des enfants indonésiens plus sains. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, voici le magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de vendredi avec moi, Muhammad Soewartono. Chers amis, la musique de dangdut est la musique qui est fortement favorisée par les personnes en Indonésie, à partir du niveau populaire jusqu'à élevé. Dans presque toutes les performances, à la fois dans les programmes de musique à la télévision ou dans les fêtes ou bien les parties de musique, de dangdut, étant toujours jouées pour égayer l'atmosphère. Bien que la musique de dangdut puisse souvent être entendue en public, mais souvent l'équipe de direction ou les exécutifs sont également consacrés à la musique et les chansons de dangdut. En fait, des fonctionnaires ou des personnalités qui ont notamment lancé des chansons de dangdut, mais ils ne sont pas commutés profession pour devenir le chanteur ou le chanteur de dangdut. Ceci est l'image dont le dangdut de musique gagne en popularité en Russie. C'est Basofi Sudirman, qui a, à l'époque a servi comme vice-gouverneur de Jakarta, a lancé spécifiquement la chanson de dangdut et de devenir populaire. Chers amis, maintenant je tourne pour vous la chanson « Tidak Semua Laki-Laki » chanté par de Basofi Sudirman. Bonne écoute.
Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang hati yang kubawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? mencintaimu, karena tanpamu apapun ku temui, karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu?
Serzami, Fufuni diikuti la sangsong tidak semua laki-laki Syang Tepar Basowi Sudirman. Kia servi kom levis gouverneur de Jakarta ala periode de 1987 jusqu'à 1992. Et il est devenu plus tard le gouverneur de Java de l'Est pour la période 1993 jusqu'à 1998. Mais bien qu'il était comme gouverneur, il est chant toujours, en particulier en chantant des chansons de dangdut. Bien que Basowi Sudirman ne soit pas chanteur professionnel, mais son ton est parfait pour le rythme de dangdut. Quand la chanson « Tidak semua laki-laki » a été lancée, le public l'aime beaucoup. Et Basowi Sudirman est devenu plus largement connu. Cette chanson alors tourne souvent aux stations de radio. Beaucoup de chanteurs de dangdut aiment cette chanson « Tidak semua laki-laki » écrite par Leo Waldi, car ses paroles sont plus fortes. Voici le couplet de chanson « Tidak semua laki-laki ». Pour tous les hommes, vous êtes coupables. Par exemple, je vous aime. Voilà, un petit peu la parole ou le lyrique de « Tidak semua laki-laki ». Cette parole de cette chanson raconte l'histoire d'un homme qu'ont vécu une femme qui a été déçue parce que l'homme trahit. Chers amis, maintenant, allez écouter la chanson suivante de Basowi Sudirman intitulée « Sekedar Bertanya ». Bon écoute. Chers amis, vous écoutez toujours le magazine de musique La Voix de l'Indonésie avec la chanson de rythme de dangdut avec le chanteur Basofi Sudirman. Vous avez, avant de devenir le vice-gouverneur et gouverneur depuis 1963, Basofi Sudirman a la grande carrière au militaire. Après avoir servi comme le vice-gouverneur de Jakarta et puis comme le gouverneur de Java de l'Est, Basofi a décidé de ne pas être actif dans le parti politique. Chers amis, c'était le magazine de musique édition de vendredi. Et avant de terminer, écoutez d'abord Hanya Kau Yang Terpilih, chanté par Basofi Sudirman. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Percayalah, teduhnya hatiku.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.